On se rappelle le système de défense adopté par l'inculpé. Il ne peut s'expliquer, disait-il, la présence de la bague que par une vengeance de Monsieur de Crozon.
Le comte est brutal et rend sa femme malheureuse. J'ai eu un long entretien avec celle-ci, elle est vivement engagée au divorce. Mais au courant, le comte s'est vengé en prenant la bague et lors de mon départ, en la glissant dans les nécessaires des toilettes.
Le comte et la comtesse maintinrent énergiquement leur plainte. Entre l'explication qu'ils donnaient et celle du consul, toutes deux également possibles, également probables, le public n'avait qu'à choisir. Aucun fait nouveau ne fit pencher l'un des plateaux de la balance. Un mois de bavardage, de conjectures et d'investigation n'amena pas un seul élément de certitude. Ennuyé par tout ce bruit, impuissants à produire la preuve évidente de culpabilité qui eût justifié leur accusation, Monsieur et Madame de Crozon demandèrent qu'on leur envoyât de Paris un agent de la sûreté capable de débrouiller les fils de l'écheveau. On envoya Ganimard. Durant 4 jours, le vieil inspecteur principal fureta, potina, se promena dans le parc, eut de longues conférences avec la bonne, avec le chauffeur, les jardiniers, les employés des bureaux de poste voisins, visita les appartements qu'occupait le ménage Bleichen, les cousins d'Andel et Madame de Réal. Puis, un matin, il disparut sans prendre congé de ses hôtes. Mais une semaine plus tard, il recevait ce télégramme. Vous prie venir demain vendredi, 5h soir, au thé japonais, rue Boissy d'Anglas, Ganimard. À 5h exactement, ce vendredi, leur automobile s'arrêtait devant le numéro 9 de la rue Boissy d'Anglas. Sans un mot d'explication, le vieil inspecteur qui les attendait sur le trottoir les conduisit au premier étage du thé japonais. Ils trouvèrent dans l'une des salles 2 personnes que Ganimard leur présenta.
« Monsieur Gerbois, professeur au lycée de Versailles, à qui, vous vous en souvenez, Arsène Lupin vola 500 000 $. Monsieur Léonce d'Autrec, neveu et légataire universel du baron d'Autrec. »
Les 4 personnes s'assirent. Quelques minutes après, il en vint une 5e. C'était le chef de la sûreté. Monsieur Dudouis paraissait d'assez méchante humeur. Il salua et dit « Qu'a-t-il donc, Ganimard ? On m'a remis à la préfecture votre avis téléphonique. Est-ce sérieux ?»«
Très sérieux, chef. Avant 1 heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé que votre présence était indispensable. »
Et la présence également de Dieuzy et de Folenfant que j'ai aperçus en bas, aux environs de la porte ?
Oui, chef.
Et en quoi ? S'agit-il d'une arrestation ? Quelle mise en scène ! Allons, Ganimard, on vous écoute. Ganimard hésita quelques instants, puis prononça, avec l'intention visible de frapper ses auditeurs :
Tout d'abord, j'affirme que M. Bleichen n'est pour rien dans le vol de la bague.
Oh oh ! Fit Monsieur Dudouis. C'est une simple affirmation et fort grave.
Et le comte demanda :
Est-ce à cette découverte que se bornent vos efforts ?
Non, monsieur. Le surlendemain du vol, les hasards d'une excursion en automobile ont mené 3 de vos invités jusqu'au bourg de Crécy. Tandis que 2 de ces personnes allaient visiter le fameux champ de bataille, la 3e se rendait en hâte au bureau de poste, expédiait une petite boîte ficelée, cachetée suivant les règlements, et déclarée pour une valeur de 100 francs.
Monsieur de Crozon objecta. Oh, il n'y a rien là que de naturel.
Peut-être vous semblera-t-il moins naturel que cette personne, au lieu de donner son nom véritable, ait fait l'expédition sous le nom de Rousseau, et que le destinataire, un monsieur Bellou, demeurant à Paris, est déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague.
« Il s'agit peut-être, interrogea le comte, d'un de mes cousins d'Andel. »
« Il ne s'agit pas de ces messieurs. »«
Donc de Madame de Réal ?»«
Oui !»
La comtesse s'écria stupéfaite.
« Vous accusez mon amie Madame de Réal ? Une simple question, madame. répondit Ganimard. Madame de Réal assistait-elle à la vente du diamant bleu?
Oui, mais de son côté, nous n'étions pas ensemble.
Vous avez-elle engagé à acheter la bague?
La comtesse rassembla ses souvenirs.
Oui, en effet, je crois même que c'est elle qui m'en a parlé la première.
Je note votre réponse, madame. Il est bien établi que c'est Madame de Réal qui vous a parlé la première de cette bague et qui vous a engagé à l'acheter.
Cependant, mon ami est incapable.
Pardon, pardon! Madame de Réal n'est que votre amie occasionnelle, et non votre amie intime, comme les journaux l'ont imprimé, ce qui a écarté d'elle les soupçons. Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. Or, je me fais fort de vous démontrer que tout ce qu'elle vous a raconté sur elle, sur son passé, sur ses relations, est absolument faux. Que Madame Blanche de Réal n'existait pas avant de vous avoir rencontré, et qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle.
Et après ?
Après ? Fit Ganimard.
Oui, toute cette histoire est très curieuse, mais en quoi s'applique-t-elle à notre cas ? Si tant est que Madame de Réal ait pris la bague, ce qui n'est nullement prouvé, pourquoi l'a-t-elle cachée dans la poudre dentifrice de M. Bleichem ? Que diable ! Quand on se donne la peine de dérober le diamant bleu, on le garde. Qu'avez-vous à répondre à cela?
Moi, rien, mais Madame de Réal y répondra.
Elle existe donc?
Elle existe sans exister. En quelques mots, voici. Il y a 3 jours, en lisant le journal que je lis chaque jour, j'ai vu en tête de la liste des étrangers à Trouville, Hôtel Beau Rivage, Madame de Réal, etc. Vous comprendrez que le soir même, j'étais à Trouville et que j'interrogeais le directeur de Beau Rivage. D'après le signalement et d'après certains indices que je recueillis, cette Madame de Réal était bien la personne que je cherchais. Mais elle avait quitté l'hôtel, laissant son adresse à Paris, 3 rue du Colisée. Avant-hier, je me suis présenté à cette adresse et j'appris qu'il n'y avait point de Madame de Réal, mais tout simplement une dame réelle qui habitait le 2e étage, qui exerçait le métier de courtière en diamant et qui s'absentait souvent. La veille encore, elle arrivait de voyage. Hier, j'ai sonné à sa porte et j'ai offert à Madame de Réal, sous un faux nom, mes services comme intermédiaire auprès de personnes en situation d'acheter des pierres de valeur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici pour une première affaire.
Comment ? Vous l'attendez ?
À 5h30.
Et vous êtes sûr
que c'est la Madame de Réal du château de Crozon ? J'ai des preuves irréfutables. Mais écoutez, le signal de Folenfant.
Ganimard se leva vivement.
Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur et Madame de Crozon, veuillez passer dans la pièce voisine. Vous aussi, Monsieur d'Autrec. Et vous aussi, Monsieur Gerbois. La porte restera ouverte et au premier signal, je vous demanderai d'intervenir. Restez, chef, je vous en prie.
Et s'il arrive d'autres personnes ? Observa Monsieur Dudouis.
Non, cet établissement est nouveau et le patron, qui est un de mes amis, ne laissera monter âme qui vive. Sauf la dame blonde.
La dame blonde ? Que dites-vous ?
La dame blonde elle-même, chef. La complice et l'amie d'Arsène Lupin. La mystérieuse dame blonde, contre qui j'ai des preuves certaines, mais contre qui je veux en outre et devant vous réunir les témoignages de tous ceux qu'elle a dépouillés.
Il se pencha par la fenêtre.
Elle approche. Elle entre. Plus moyen qu'elle s'échappe. Folenfant et Dieuzy gardent la porte. La dame blonde est à nous, chef!
Presque aussitôt, une femme s'arrêtait sur le seuil. Grande, mince, le visage très pâle et les cheveux d'un or violent. Une telle émotion suffoqua Ganimard qu'il demeura muet, incapable d'articuler le moindre mot. Elle était là, en face de lui, à sa disposition. Quelle victoire sur Arsène Lupin ! Et quelle revanche ! Et en même temps, Cette victoire lui semblait remportée avec une telle aisance qu'il se demandait si la dame blonde n'allait pas lui glisser entre les mains grâce à quelques-uns de ces miracles dont Lupin était coutumier. Elle attendait cependant, surprise de ce silence, et regardait autour d'elle sans dissimuler son inquiétude.
« Elle va partir, elle va disparaître !»
pensa Ganimard effaré. Brusquement, il s'interposa entre elle et la porte. Elle se retourna et voulut sortir.
« Non, non, pourquoi vous éloigner ?»«
Mais enfin, monsieur, je ne comprends rien à ces manières. Laissez-moi. »«
Il n'y a aucune raison pour que vous vous en alliez, madame. Et beaucoup, au contraire, pour que vous restiez. »«
Cependant... »«
Inutile ! Vous ne sortirez pas. »
Toute pâle, elle s'affaissa sur une chaise et balbutia « Que voulez-vous ?» Ganimard était vainqueur. Il tenait la dame blonde. Maître de lui, il articula
« Je vous présente cet ami dont je vous ai parlé et qui serait désireux d'acheter des bijoux et surtout des diamants. Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis ?»«
Non, non, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. »
« Mais si, cherchez bien, une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté, quelque chose comme le diamant bleu, ai-je dit en riant, et vous m'avez répondu, précisément j'aurai peut-être votre affaire, vous souvenez-vous ?»
Elle se taisait. Un petit réticule qu'elle tenait à la main tomba. Elle le ramassa vivement et le serra contre elle. Ses doigts tremblaient un peu.
« Allons, » dit Ganimard, « je vois que vous n'avez pas confiance en nous, Madame de Réal. Je vais vous donner le bon exemple et vous montrer ce que je possède, moi. »
Il tira de son portefeuille un papier qu'il déplia et tendit une mèche de cheveux.
« Voici d'abord quelques cheveux d'Antoinette Bréa, arraché par le baron et recueilli dans la main du mort. J'ai vu Mademoiselle Gerbois. Elle a reconnu positivement la couleur des cheveux de la dame blonde. La même couleur que les vôtres, d'ailleurs. Exactement la même couleur. »
Madame Réal l'observait d'un air stupide, et comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles, il continua.
« Et maintenant, voici deux flacons d'odeur, sans étiquette, il est vrai, et vides, mais encore assez imprégnés de leur odeur pour que Mademoiselle Gerbois ait pu, ce matin même, y distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant 2 semaines. Or, l'un de ces flacons provient de la chambre que Madame de Réal occupait au château de Crozon, et l'autre... de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Beaurivage. »
« Que dites-vous ? La dame blonde, le château de Crozon ?»
Sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table 4 feuilles.
« Enfin, dit-il, voici sur ces 4 feuilles un spécimen de l'écriture d'Antoinette Bréa, un autre de la dame qui écrivit au baron Herschmann lors de la vente du diamant bleu, un autre de Madame de Réal lors de son séjour à Crozon, et le 4e de vous-même, madame. C'est votre nom et votre adresse donnés par vous au portier de l'hôtel Beaurivage à Trouville. Or, comparez les 4 écritures. Elles sont identiques. »
« Mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes fou. Que signifie tout cela ?»«
Cela signifie, madame, »
s'écria Ganimard dans un grand mouvement,
« que la dame blonde, l'amie et la complice d'Arsène Lupin n'est autre que vous !»
Il poussa la porte du salon voisin, se rua sur M. Gerbois, le bouscula par les épaules et l'attirant devant Madame Réal,
« Monsieur Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez Maître de Tinan ?»«
Non. »
Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela.
Non ? Est-ce possible ? Voyons, réfléchissez.
C'est tout réfléchi.
Madame est blonde comme la dame blonde, pâle comme elle, mais elle ne lui ressemble pas du tout.
Je ne puis croire. Une pareille erreur est inadmissible. Monsieur Dautrec, vous reconnaissez bien Antoinette Bréa?
J'ai vu Antoinette Bréa chez mon oncle, ce n'est pas elle.
Et madame non plus n'est pas madame de Réal,
affirma le comte de Crozon. C'était le coup de grâce. Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait.